Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Je vais le relire, hein. On va avoir deux passages, mais on va prendre le temps juste de bien entrer dans la pensée, là. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et Colossiens chapitre 3, verset 16, c'est un passage parallèle. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur en vertu de la grâce. Je le relis. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Je commencerai par ces versets et on terminera par eux. Et maintenant, on va aller dans Marc, chapitre 9. Là, on vient de lire ce que la pensée de Dieu, ce que Dieu nous demande de... Le conseil, on va dire, divin sur ce que Dieu voudrait. Ah, c'est mieux là. C'est pas que je veux, mais c'est pas évident assis de partager. Là, c'est dans un premier temps, on lit ce que Dieu souhaite, hein, la pensée que Dieu a et le souhait que Dieu aurait pour nos vies. Dans quoi il veut que nous nous entretenions. Les hymnes, les cantiques, la pensée de Dieu. Chanter. Louange, c'est à confesser ce que Dieu dit. C'est ça la louange, hein. C'est louange, adoration, ce que Dieu est, ce que Dieu a fait. Qui Dieu est, vous avez remarqué, les chants de louange, c'est toujours qui Dieu est, la confession de qui Dieu est, de plein de façons de le dire, mais le dire en tout cas, et ce que Dieu fait, ou a fait, ou fera. C'est pareil. A fait dans ma vie, fait ou désire faire. Voilà. Et ça, c'est la confession. C'est louange, adoration, c'est ça. Ce que Dieu est, ce que Dieu a fait. Ce qui nous est rappelé dans ces deux passages, et on y reviendra à la fin. Maintenant, on va partir de plus bas. Parce que ça, c'est la version œuvre accomplie, version idéale. Ça, c'est la version. Et maintenant, on va aller chercher la version moins idéale. Et on va partir de là où naturellement on va. Et on reviendra petit à petit vers ce que Dieu désire que nous allions. Vers où Dieu? Parce que vous avez lu quelque part très certainement qu'en première chose vient toujours le naturel avant que ne vienne le spirituel. Généralement, souvent on reçoit des situations, la première chose qui nous vient, c'est naturel. Puis on réfléchit et on espère, on devient spirituel vite. Vous vous levez le matin, c'est plutôt naturel. Vous voyez devant la glace, oh, naturel. Voilà. Vous encore plus que nous, parce que nous on se regarde même pas dans une glace, donc. Mais donc le côté naturel vient d'abord et notre entraînement dans la piété, parce que la piété c'est ça, hein, c'est la relation avec Dieu, c'est comment j'entretiens cette relation avec Dieu. Donc la piété c'est de combien de temps je passe de naturel à spirituel. Alors il y en a c'est 3 mois. Il y en a c'est 3 jours, il y en a c'est 3 minutes, et puis ça varie, hein. Ça dépend ce que c'est, ça dépend la saison, ça dépend, mais c'est vrai que la parole de Dieu va nous ramener à ça, entretenez-vous. Maintenant on va prendre des gens qui sont normalement très spirituels, prenons les apôtres et les disciples. Et vous allez voir que ça ne marche pas toujours comme ça. Hein. Donc on est à, et on va voir 3 points. Donc je vais vous situer le contexte de... Nous sommes à Marc 9. Alors pour vous situer quand même le contexte, trois apôtres, Pierre, Jean et Jacques, sont allés sur une montagne et ont vu Jésus être transfiguré. Donc c'est pas un détail, hein, c'est carrément une descente d'une vision, enfin pas d'une vision, c'est une ouverture de la dimension ciel sur la terre pendant quelques instants. C'est-à-dire vous avez Jésus qui apparaît dans son état glorifié, il est transformé, c'est la transfiguration, donc avec des vêtements resplendissants, c'est Jésus dans la gloire. Avec Moïse, Élie, c'est quand même, c'est pas rien, c'est le ciel qui pendant quelques instants vient se poser sur la terre et puis ça disparaît. Il y a Pierre, Jean et Jacques qui voient ça, c'est quand même le show. Là, c'est le gros show, quoi. C'est le spectacle, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. Donc, ils vivent ça. Vous savez, Pierre va dire, allez, on va monter des tentes, ils vont rester là, ça va être chouette. Et puis, bon, voilà. Donc, ils descendent de ça, et c'est là que c'est intéressant, parce que des fois, nous, bien sûr, on lit les passages comme ça. Hein, on a c'est des séquences à la Bible, vous voyez. Vous lisez des séquences avec... En plus, on la lit souvent bout par bout. Alors, bien sûr, on est encouragé à lire la Bible à la suite, mais souvent, par rapport aux prédications, on écoute un message, ça parle de tel chapitre, et on sait que si on veut étudier, on doit toujours voir les contextes avant, après. C'est déjà le premier contexte. Après, vous avez le contexte du livre, etc. Ils reviennent, et ils trouvent les autres, parce qu'ils étaient que trois, les autres disciples, les autres apôtres, les autres disciples, en train de se prendre la tête, disons-le, en version moderne, avec les gens, parce qu'il y a un enfant qui est possédé, et ils ne sont pas arrivés à faire sortir ce démon de l'enfant. Et là, ils sont en train de se disputer avec, bien sûr, les religieux, entre eux. On ne sait pas exactement le fin fond. Donc, le premier point, c'est... En fait, le sujet va être... Ils n'arrivent pas à faire. Ils n'y arrivent pas. Lisons. 9,14. Marc 9,14. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, donc là il descend de la montagne, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes, donc vous savez les opposants religieux qui sont là, hein, qui discutaient, notez bien ce mot, je vais vous dire, le mot est plutôt qui disputaient, hein, mais je vais y revenir, qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourue pour le saluer. Il leur demanda, ça c'est le point que je vous donnerai trois fois, il leur demanda de quoi discutez-vous avec eux. Autre manière de le dire, de quoi vous entretenez-vous. Donc là je reviens avec mes passages de tout à l'heure, hein, que je vous ai lu dans Éphésiens et dans Colossiens. De quoi discutez-vous, de quoi disputez-vous, avec quoi vous vous entretenez en fait. C'est ça les mots, c'est ça le contexte. C'est depuis un moment, autour de quoi vous parlez? De quel sujet? De quelle manière vous abordez ce sujet? Et alors ce premier point-là, c'est vraiment le mot-là qui est de quoi discutez-vous? C'est vraiment plus le sens de dispute. Là, il y a une dispute. Je ne sais pas ce qu'ils disent, on n'y arrive pas. Si moi je l'avais fait, je l'aurais mieux fait que ça. Peut-être, hein? Peut-être qu'il y a Jude qui dit à un an à l'autre Jacques, c'est moi j'aurais fait mieux, oui mais je t'avais dit il fallait d'abord faire ça, et puis non on ne pourra pas parce que ses parents ont trop péché, bon, tout ça c'est pas raconté ce coup-ci là. En tout cas. Et j'avais regardé ça, je l'avais partagé ça à Montpellier. Le mot qui est là, il est intéressant parce que c'est de quoi vous, sur quel sujet vous vous disputez, c'est plutôt ça le sens du mot. Et le mot dispute, tel que nous le connaissons aujourd'hui, hein, dispute, vous savez ce que ça veut dire, mais il n'est pas fréquent à l'époque, il a été employé que dans des écrits ou dans la bouche d'un philosophe, qui c'est lequel des trois, lui, Aristote, Socrate, Platon, Aristote, voilà, donc c'est dans ces sujets que lui a amené ça, et puis après on le retrouve dans ses écrits à lui, c'est les philosophes, hein. Parce que les philosophes, ça a été bien sûr les débats, les discussions publiques, les assemblées, la démocratie doucement qui arrive, le débat public, les échanges, l'art de bien parler, les conférenciers, tout ça, ça naît dans cette période de la Bible quand même, hein, toute la période de l'Antiquité. Et donc, Aristote a employé ce mot, et après on le retrouve dans la Bible. Et après, bien sûr, il existe. Et puis, il prend un sens Aujourd'hui, on n'emploiera pas ce mot grec. Hein. Je vous ai fait grâce des mots grecs. Nous, on va directement, voilà, les disputes. Mais là, c'est la discussion. Et à l'époque des Grecs, là, l'Antiquité, beaucoup de discours, ça parlait, ça discutait, ça se chamaillait. Donc, le premier point qu'on voit dans ce passage, c'est que les disciples n'arrivent pas à faire quelque chose, et du coup, il y a une dispute. Alors, c'est peut-être la faute à Lily, c'est la faute à toi, à moi, ma femme, mon fils, la personne que j'arrive pas, peut-être je devrais investir dans telle personne, peut-être avec mes enfants, avec mes parents, je sais pas. Mais il y a quelque chose, et c'est intéressant parce que ce mot, et vous allez voir, il prend du sens par rapport à notre contexte aujourd'hui. Le mot dispute tel qu'il est donné au départ dans l'étymologie et dans le grec, c'est une recherche personnelle de la poursuite d'une fonction politique par des moyens injustes. Donc une fonction politique, c'est-à-dire de prendre le pouvoir, d'avoir raison, et de pouvoir convaincre, parce que dans ce que moi je peux discuter, dans ce que moi je peux disputer, je prends l'autorité et je peux prendre la gouvernance. C'est ça. Et d'ailleurs, une dispute aujourd'hui, c'est ça. J'ai raison. Et le ton monte. J'ai raison. Et le ton monte. Et peut-être que celui qui va faire monter plus de ton, ou qui par ses arguments, son argumentation, va pouvoir arrêter l'autre, voire le blesser. Parce que des fois, une dispute, ça s'arrête comme ça, hein. C'est pas toujours celui qui a raison. C'est parce qu'à un moment donné, je vais te dire, bim, je vais te rappeler un truc de toi, de ton passé, de machin. Je vais te rappeler un truc comme ça, je vais te vexer. Ou toi, tu vas me vexer. Et ça va s'arrêter là, alors que ça n'a rien changé. Hein, ça n'a rien changé, on n'a pas fait avancer les choses. C'est intéressant parce que finalement, un peu la politique, elle est comme ça. C'est tout le temps en train de casser quelqu'un. Vous voyez ? C'est tout le temps en train de casser quelque chose, quelqu'un. C'est marrant parce qu'en politique, l'autre a toujours tort. C'est un des points, là je ne fais pas de la politique, mais il est clair que quand j'entends un homme politique parler, c'est toujours pour dire que l'autre a tort, et que lui aurait mieux fait. Donc c'est cet esprit-là de dispute, discussion. Et Jésus va leur poser cette question, de quoi est-ce que vous vous entretenez ? Quel est le truc dans votre tête, dans votre dispute, dans votre discussion dans lequel vous vous entretenez? Vous comprenez le mot entretenir? Si par exemple j'étais pianiste et que je fasse des grands concerts de classiques, il faudrait que j'entretienne mes gammes. D'accord? Si je suis un grand traducteur devant des grandes conférences où je sais que ça sera une conférence avec des éminents parleurs, je vais entretenir mon langage, ou je vais entretenir. Nous, on a besoin de s'entretenir dans quelque chose. Vous voyez où je veux en venir doucement. Parce que naturellement, il y a un esprit de dispute toujours qui voudra nous faire soit nous écraser, parce qu'on va être vexé, et des fois, c'est même si on a raison, hein, mais c'est comme dira le poète, la raison du plus fort, des fois, tu vois, ça va écraser le plus faible, mais il n'y a peut-être pas raison. Soit on va être écrasé, soit on va écraser. Soit on va prendre la gouvernance, pour reprendre le terme, soit on va devenir des rien, moins que rien. Donc ça, Jésus nous dit, de quoi vous entretenez-vous? Est-ce que c'est de ça? Et Jacques 3,14, Philippiens 2,3, Paul va dire qu'il n'y ait pas d'esprit de dispute, d'esprit de groupe, d'esprit de clan comme ça. Donc ça c'est le premier point. Donc ça, c'est la partie dispute avec les autres. Après, vous avez un autre passage qui est juste après, en 9,33, et ça continue. Hein. On n'est pas loin. Ils vivent des choses. Vous savez, ces gens-là, beaucoup de choses se sont enchaînées, hein, parce que finalement, ça a duré que 3 ans. Hein, voyez, et il en est passé des choses. Hein. Donc, l'enfant, Jésus va leur dire, vous comprenez pas, en fait, votre combat... Il va dire, il va être même un peu en colère, il va dire, la manière de faire, parce que c'est pas du miracle qu'on va parler, parce que lui, le petit va le guérir, hein. Ce genre de, cette espèce de démon ne sort que par le jeûne et la prière, hein, et il va guérir cet enfant qui se jetait dans le feu d'ailleurs, hein, c'est quelque chose de terrible. Hein. Il va le guérir, il va respecter un peu après les disciples, parce que, en fait, la question c'est de quoi vous vous entretenez. En fait, votre discussion, le truc que vous entretenez, ne vous donne absolument pas de victoire, de réponse, de discernement, voire même de réaliser simplement que vous ne pouvez pas le faire. Parce que peut-être vous ne pouvez pas le faire, mais est-ce que c'est un sujet pour en parler et se disputer? Est-ce que moi je peux tout faire de ce que Dieu me demande? Enfin, ce que Dieu me demande, oui, mais on va dire, mais ça va être à sa manière, ça va être à son temps, et c'est lui qui va le faire. Mais je ne peux pas tout faire. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais je ne peux pas le faire. Je ne sais pas le faire. C'est pas l'heure de le faire. C'est pas moi à le faire. Il y a plein de choses comme ça. Mais Jésus, il y a de quoi tu t'entretiens? Est-ce que tu oserais me dire que tu n'arrives pas? Ou un esprit de dispute. Donc ça continue. Il guérit. On arrive au verset 30. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Écoutez bien maintenant le contexte. Car il enseignait ses disciples et leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Donc là, ils marchent, ils se déplacent et Jésus leur dit, je vais mourir, je vais souffrir, je vais mourir, mais je vais ressusciter. Mais les disciples, entendez ça, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. C'est quand même fou ça. Les gars, ils dorment avec lui. Ils voient des choses extraordinaires. Un enfant vient d'être carrément un enfant qui se jetait dans le feu et libéré. Ils l'ont vu pour certains quelques jours avant, quelques temps avant, peu de temps avant, transfiguré. Jésus leur dit, il va se passer ça. Je ne sais pas moi. J'essaie de penser à mon meilleur ami, mon épouse peut-être, ou mes enfants, ou mes frères et sœurs, qui viendraient me dire un truc très particulier, qui me surprendrait. Je dirais, attends, Nicole, ou je ne sais pas si c'est mon enfant, ou quelqu'un de vous, quelqu'un avec qui on est proche. Il m'explique un truc particulier sur lui, que ça me... Et vous imaginez que je me dis être l'ami, le conjoint, et que je ne comprends pas, mais je n'y en parle pas. Parce que j'ai peur de lui en parler. Ça, c'est notre attitude par moment. Jésus nous montre ou nous fait voir quelque chose de particulier dans nos vies et on craint de l'interroger. C'est quand même, moi, ça me surprend ce passage. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous ? On revient. » Et ce n'est pas le même mot. Hein. Là, c'est plus dispute. Mais de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. De quoi discutez-vous? De quoi vous entretenez-vous? C'est-à-dire que Jésus fait des choses, à un moment donné, il leur dit, il va se passer quelque chose qui est le but de ma venue. Je vais souffrir, être arrêté, méprisé, rejeté, mais je vais mourir, au bout de 3 jours, je vais ressusciter. On ne comprend pas. On se tait. Par contre, je parle à mon copain pour savoir d'après toi, c'est qui le plus grand? C'est lui, c'est moi, c'est toi, c'est qui? Vous avez vu le... Et Jésus va dire de quoi, il le sait, hein, parce qu'il sait de quoi ils réfléchissent. Et ils ne lui diront pas, mais lui va, alors il va s'asseoir et leur dire si quelqu'un va être le premier... Il sera le dernier. Et là, le mot, c'est pas dispute, c'est pensée. C'est plus les pensées. Et qu'est-ce que vous tournez dans votre tête? C'est ça le sens du mot. Qu'est-ce que vous calculez? Qu'est-ce que vous estimez? Qu'est-ce que vous estimez l'estimation des différentes possibilités? Peut-être plus féminin, ça, on dit. Je sais pas. Moi, ça m'arrive. Souvent. Tu calcules. Tu gamberges. Point A. Point B, point C, C1, C2, C3. C'est lié aux inquiétudes, c'est lié à l'incrédulité. C'est les disputes, si vous voulez, mais juste tout seul. Là, tu as besoin de personne. Tu disputes toi et toi. Tu tournes, tu analyses. Vous laissez ça, hein? Ça peut vous réveiller la nuit. Tu vois? Et C'est comme une tentative de vouloir emboîter des choses, mais plus on réfléchit, plus il y a des possibilités. Sauf les bonnes. C'est drôle, hein? Parce que si c'était les bonnes, la paix, qui se passe intelligence, vous devrez gagner nos cœurs. Mais rarement, ça fait accélérer le palpitant, ça rend plus inquiet, ça empêche de dormir la nuit, ça fait mal au ventre, après ça dépend de la forme que ça peut prendre. Mais bon, ça c'est pas, on va dire, c'est lié à la nature humaine, il n'y a pas de problème à ça. Mais Jésus dit, que cherchez-vous à savoir? Alors eux, c'était qui est le plus grand, ou ça pourrait être, il va mourir, comment on va s'en sortir? Comment on va faire? La croix va arriver dans ma vie. Comment je vais faire? Parce que s'il meurt, je meurs. C'est fini pour moi. Qu'est-ce qui va se passer? Et je calcule. L'argent, la famille, le couple, les enfants, mon avenir. Serais-je marié? Serais-je l'aimé? Peut-être le travail? L'église? Ça fait mal. C'est de quoi? Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Et ça qui va prendre un enfant au milieu d'eux, il va leur dire, vous savez, vous voulez être le plus grand? Ben, le plus grand, il faut que vous soyez comme ça, le serviteur de tous. C'est drôle, hein? Et il leur montre la réponse. Vous avez pris du temps, parce qu'il marchait beaucoup à l'époque. Hein? C'est pas on monte dans le, avec le ticket, là, on n'est pas, on peut pas. Non, là, c'est, vous allez voir tout à l'heure, la troisième partie qu'on va voir, c'est une question de 10 km. Hein. Des fois, il faisait 5 km dans la journée. Vous avez le temps de parler, hein? Tu sais, vous avez le temps de parler. Tu sais, puis vous êtes dans des chemins, bon, c'est pas le métro, quoi. Vous voyez, on parle, on discute, Jésus, il est devant, il est derrière, moi, je suis avec Jacques, je suis avec Pierre, je suis avec mes frères et sœurs, on parle. On parle et on s'inquiète. Et suivant avec qui je suis, je vais parler, me raconter un petit peu comment moi je vis les choses. Dans le deuxième point, c'est ça. C'est que cherchez-vous à savoir? Et là, c'est une dispute plus intérieure. Le troisième point, on va aller dans Luc 24, 17. Luc 24, 17, ou même Luc 24, 13. Jésus est mort. Jésus apparaît. Nous sommes juste après qu'il soit ressuscité. C'est les disciples d'Emmaüs. Vous connaissez l'histoire, hein? Ils vont rencontrer Jésus sur la route, mais ils ne savent pas que c'est Jésus au départ. En tout cas, Jésus est apparu déjà aux femmes. Donc on est juste quelques heures après la mort et la résurrection. Il ne nous est pas dit quels sont les disciples. Je ne vous ai pas dit lesquels c'est. Peut-être c'est ceux qui étaient aussi quand ils ont vu l'enfant délivré. En tout cas, ils en ont entendu parler. Et c'est intéressant ce passage. Vous allez voir, on va retrouver la même chose, mais avec un troisième mot. Un troisième mot. Je prends Luc 24, 13. Et voici ce même jour, le même jour qu'il y a eu la résurrection, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Pour info, 11 kilomètres. Ça, on a le temps de parler. D'accord? Et ils s'entretenaient, et encore, de tout ce qui s'était passé. C'est-à-dire, 10 kilomètres, on a fait ça, et là il est à la croix, il est mort, tu as vu, il y a eu la nuit qui est descendue, il y a eu des choses qui sont passées, et là, alors, on a bien entendu que des femmes auraient vu, parce qu'ils lui disent après, on a bien entendu que des femmes auraient dit qu'il avait vu, mais on ne sait pas trop, on doit rejoindre les disciples, voilà. Et c'est intéressant, pendant qu'il s'entretenait, c'est le même mot, hein, mais le traducteur en français a pris parler et s'entretenait pour faire varier un peu le dialogue, l'histoire, sinon vous avez des répétitions de mots. Mais là, on pourrait lire, et il s'entretenait de tout ce qui s'était passé, pendant qu'il s'entretenait, et discuter, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Très intéressant à bien lire, c'est le sens derrière, il y avait une force qui les retenait de pouvoir le reconnaître. Le naturel d'abord. Ils sont en train de s'entretenir dans une pensée, et vous allez voir ce que c'est, il leur dit, et vous retrouvez encore, de quoi vous entretenez-vous en marchant? On retrouve encore de quoi vous entretenez-vous. Et ils s'arrêtèrent l'air attristé. L'explication des mots, le sens des mots dit qu'ils avaient une mine sombre. Donc ça veut dire que, vous imaginez la scène, 10 bornes, peut-être ils sont mieux quand ils arrivent, hein, ils ont fait quelques kilomètres, ils s'entretiennent dans une pensée, ils se remémorent une situation, mais avec la mine sombre. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de positivisme dans tout ça. C'était chouette, on a pensé qu'il allait nous libérer, qu'on allait avoir enfin le Messie, mais là il est mort, voilà, et ça fait 3 jours, voilà. Écoute, on doit aller rejoindre les disciples, tu vois. Vous voyez, de quoi vous entretenez-vous? L'un d'eux, nommé Cléopas, pardon, je vous ai dit qu'on ne savait pas qui c'est, alors donc ce n'est pas un des apôtres, mais vous avez un disciple. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, et ça c'est intéressant là. Là, c'est un truc clé, je l'ai vu que quand je l'ai donné à Montpellier, j'ai vu ça là. Au moment où je le disais, j'ai dit, tiens, c'est... L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit. Alors Jésus lui dit, de quoi vous parlez? Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? C'est-à-dire, tout le monde sait ce qui s'est passé. Et Jésus, on en a entendu parler, ça a fait des mouvements de gens, des gens qui viennent de partout pour se faire guérir, il y a eu des démoniaques, des sourds, des aveugles, ça a fait les juifs sont en colère, on l'a crucifié, il était innocent, même le Pilate voulait pas, le Romain voulait pas le crucifier, mais les juifs, vous rendez compte de ce qu'il a raconté? Et puis là, ça fait 3 jours, t'es le seul toi, parce qu'ils n'ont pas reconnu encore. T'es le seul à pas savoir ce qui s'est passé. Et voyez ce qu'il répond. Quoi ? Leur dit-il. C'est quand même... Au début, j'ai dit, mais cette réponse, elle est bizarre. Ils se fichent de leur figure ou quoi ? C'est pas trop le genre, quand même. Hein. Moi, je pense que la pensée de Jésus, c'est la bonne. Parce que il ne comprend pas, ou il joue le jeu de ne pas comprendre ce qu'eux disent, parce que lui, en effet, n'est pas au courant de ce qui s'est passé comme eux le méditent depuis un bon moment. Lui n'est pas au courant, il a une pensée spirituelle, et il veut les emmener dans ça. Parce qu'il il rencontre des gens qui l'ont côtoyé, qui ont vu des choses extraordinaires, ils sont sur la route, il leur avait expliqué plusieurs fois il les avait repris, plusieurs fois il avait expliqué que ça allait se passer, il les côtoie. Ils ne le reconnaissent pas, ils sont tous en pleine dépression, là, en train de se dire, on ne sait pas trop, on va là-bas, mais on ne sait pas. Et en plus, ils lui disent, mais toi, tu n'es pas au courant? Non, je ne suis pas au courant de votre version, moi. Moi, votre version, je ne la connais pas. Et je vous écoute. C'est quoi votre version? Et ça, c'est intéressant, parce que Jésus, autant il vient nous chercher, mais autant il reste dans sa pensée. Et c'est dans cette pensée-là qu'il va les ramener. Vous voyez? C'est dans cette pensée-là qu'il va les ramener. C'est dans cette pensée-là, Jésus vient nous chercher dans nos pensées, dans ce que nous entretenons, il vient là-dedans. Ce n'est pas un souci. Et c'est intéressant qu'il dise, alors, de quoi vous entretenez alors que vous étiez en route? À chaque fois, ils sont en marche. Hein. Vous avez remarqué, à chaque fois, ils vont d'un point vers un autre. Dans une attitude. Une fois, c'est pour se disputer. Une fois, c'est des pensées. Une fois, c'est la mine des fêtes. Jésus vient nous chercher là où nous en sommes, mais, et ça c'est un avantage pour nous, hein, parce que lui c'est pas un caméléon, il ne devient pas comme nous. Il va nous transformer, lui, à sa pensée. Et là le mot, c'est le troisième. De quoi vous entretenez-vous? Alors que 3 fois vous avez vu le même mot. Hein. Donc la première fois, c'était des disputes avec les autres. La deuxième fois, c'était des pensées, et là, dans ce mot, alors il est... C'est un mot un peu plus complexe, mais à l'intérieur de ce mot, il y a le mot logos. Là, vous avez le mot parle de la pensée, mais la pensée de Dieu. Et il veut les amener de quelle pensée? Et c'est marrant parce que dans un premier temps, c'est comme si je suivais Lily. Qui est d'un jour pas bien, ça arrive jamais ça. Tu vois, c'est, mais imaginons, une fois, ça arrive, et je vais la voir et je lui dis alors quelles sont les bonnes pensées à propos de Dieu que tu penses? Mais là, sur l'instant, ça tilte pas parce que elle pourrait me répondre, Oh, c'est pas trop de ça que j'ai envie de parler. Parce que moi, mais, elle va faire comme eux, me dire, mais t'es pas au courant de ce que je vis? T'es pas au courant de ce qui m'arrive? Tu sais pas, tu te rends pas compte l'état que je suis dans l'état, ce que je vis, ce que je suis en train de penser, ce que je, avec quoi je me bats. Et moi, parce que je l'aime, je vais lui dire, non, je comprends pas, explique-moi. Ça, c'est notre Dieu. Mais sûr qu'il comprend. Mais il vient descendre jusque-là, oui, jusque-là. Jusque-là. Nous, on pense qu'on n'est pas digne qu'il descende jusque-là. Parce que c'est pas digne pour lui de descendre jusque-là. C'est moi qui devrais aller jusqu'à lui quand je serai, tu vois, quand je serai digne d'arriver à cette hauteur-là. Mais lui, il vient jusqu'à nous et descend. De quoi? De quoi? Parce que je vois, il voit bien notre état. Il est avec les cœurs brisés, les cœurs contrits. Et, donc ça c'est, là vous avez la parole incarnée, Jésus, qui va expliquer maintenant la parole écrite. Et derrière ça, on a, donc eux ils vont parler, et puis, alors Jésus leur dit, je descends, hein, homme sans intelligence, ne faut-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc il marche là, il marche, il est venu les chercher dans une position. Eux, d'abord, ils confessent un peu où ils en sont. Jésus marche, il continue de marcher, et puis Jésus lui dit... Je t'aime, mais tu es pas dans le bon. Et il va commencer à leur expliquer. La parole incarnée explique la parole écrite. C'est le Saint-Esprit. Hein. C'est le Saint-Esprit qui vient dans nos cœurs et qui continue le chemin. Puis ils vont arriver à la maison, vous connaissez la suite de l'histoire. Et là, l'attitude a changé. Déjà, ils vont le dire après. Ils vont dire... Et notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait? C'est-à-dire que pendant que Jésus commence à parler, en fait, il y a une attitude qui commence à s'installer, ils commencent à décaler leur pensée vers une autre pensée, celle de la parole de Dieu. Parce qu'il leur explique tout ce que Dieu a fait. Ils arrivent, et là, le test. Et cela, vous voyez que l'attitude a changé. Vous voyez? Il fait mine de partir. Et eux, ils disent, non, non, reste. Reste. Il l'invite. Et là, il va partager le pain avec eux. Et là, ils vont le reconnaître. Et vous voyez comment déjà leur attitude a changé. Parce que peut-être, s'il n'avait pas parlé de tout ça, s'il n'avait pas eu là, cette disposition, il aurait dit, bah, allez, ciao, hein, nous on continue. Voilà. Dieu va jusqu'au bout. Il nous pose après des questions par rapport à notre capacité. Ce qu'on est capable de répondre. Des fois, un tout petit oui. Il n'a pas besoin de beaucoup d'alléluia, hein, Dieu. Hein. C'est le cœur qu'il teste. Hein. Il n'a pas besoin de beaucoup d'action, en fait. Juste, c'est l'attitude de cœur. Et ces gens-là, pendant qu'ils leur expliquaient la parole écrite, leur cœur bouillonnait. C'est bon ce qu'il dit. C'est ça. De quoi vous entretenez-vous? Et là, d'un coup, il s'entretient d'autre chose. Et puis, voilà. On va aller sur la conclusion, donc on va revenir à nos passages. Et j'ai trouvé ça parce que ma question c'était, ce passage, j'avais partagé ça, tu étais Tabia finalement quand j'avais partagé ça? J'avais partagé ça à Montpellier, je pense, j'avais comme la pensée après, de vous le partager aussi, mais je me disais, mais quel lien? Alors, c'est facile hein, de faire un lien, on va dire, tiens, on va prendre le truc, les femmes, les émotions, les femmes, elles ont plus, ça tourne plus vite, on peut aller s'appuyer sur ça, c'est trop facile. Mais non, ça c'est... Enfin, moi, en tout cas, je t'ai pas... Je vais emmener ça, puis on verra, puis ce matin, je l'ai vu. Vous avez un avantage, je vais vous le donner. Il vous est demandé de vous soumettre, hein, soit si vous êtes marié, à votre mari, si vous n'êtes pas marié, à votre mari qui est Christ, et donc... sa représentation qui est l'Église. Et aux hommes, ils demandent autre chose. Hein, mais et vous avez un avantage. Ça, c'est un avantage. C'est un avantage de pouvoir... Que Dieu vous ait demandé quelque chose dont il allait vous donner parfaitement la disposition et la provision d'être soumise, c'est-à-dire d'être placé dessous. Pour certains, c'est mal vu. Pour certaines, c'est mal vu. Quelle soumission ? Moi, je suis soumis à personne. Tu vois ? Si vous voulez. Mais quand Dieu le demande, et vous savez, dans ces passages, quand Jésus dit vous discutiez de quoi au fait ? Oui, je sais. Vous ne voulez pas me le dire. Savoir qui est le plus grand. En fait, vous voulez sortir, trouver une solution pour vous en sortir. Hein ? Et il va leur donner celui qui veut être le plus grand. Plusieurs fois, vous trouvez ça dans la parole. Hein ? Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur. D'accord ? Vous voulez vous en sortir ? Vous voulez sortir la tête de l'eau ? Vous voulez maîtriser la situation ? Vous voulez maîtriser la situation ? Soyez serviteur. C'est le mot qu'a donné diacre. Hein ? C'est le même mot. Serviteur, c'est quelqu'un qui sert. C'est un diacre. Vous voulez être le premier, c'est-à-dire que vous voulez finir premier et non pas premier, je vais être le chef. Mais vous voulez sortir la tête de l'eau. Vous voulez, dans ce domaine familial, professionnel, vous voulez vous en sortir. Alors devenez un esclave, un doulos. Et vous avez cet avantage, parce que la disposition que Dieu a fait d'une femme, c'est d'être soumise. Il lui demande d'être dans cette position de servante dessous, dans le bon sens, hein, on va dire soumise à Dieu en premier. Ma femme, j'espère qu'elle est soumise à Dieu avant moi. Voilà. Et après, c'est moi. Et celles qui n'ont pas de mari, c'est Dieu, bien sûr. Et puis c'est l'Église, parce que c'est son corps. L'Église, le pasteur, l'autorité, la couverture qui est l'Église et qui est donc l'autorité de l'Église, parce que l'Église, c'est Christ, c'est le corps de Christ. Tu ne peux pas être soumis à la tête de quelqu'un sans être soumis à son corps. Vous imaginez, ma femme, elle est soumise qu'à ma tête, quoi. Voilà, donc non, elle est soumise à mon corps. Si je vais, on va là-bas, elle va avec moi. Donc, mais cette belle soumission que Dieu... Vas-y. Parce que j'arrive à la chute, là. Donc cette belle soumission que Dieu vous propose, alors il le donne, hein, femme, soyez soumise, hein, la soumission c'est quand même quelque chose, hein, mais la belle soumission, celle qui fait qu'on sent la tête de l'eau, celle qui fait qu'on devient premier, celle qui fait que peut-être, toi tu es dessous, mais en fait, quelqu'un qui est dessous, dans la position de Dieu, devient quelqu'un qui est au-dessus. Vous voyez ? Quelqu'un qui est le dernier fait qu'il va être le premier. Quelqu'un qui fait qu'il sert va être aussi en avant. Donc ça veut dire que la soumission selon Dieu, c'est quelque chose qui est très puissant. Christ a été soumis en toutes choses. Et il est devenu le premier, le plus puissant en fait. Au nom de, quand on va prononcer le nom de Jésus, un jour tout le monde va être soumis à lui. Le dernier, mais il est passé par l'état de dernier d'abord avant de devenir premier. Et regardez le lien. Peut-être vous l'avez vu, parce que peut-être vous êtes dit, quand il va partager Éphésiens, Colossiens, il va nous dire, femme, soyez soumise à vos maris. Mais pas loin. Pas très loin. Regardez Éphésiens 5, nous reprenons. Éphésiens 5, 19, ce sera la dernière partie du message. Hein. Éphésiens 5, 19, on a lu, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père de toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant, bim, les uns aux autres dans la crainte de Christ, femme, que chacune soit soumise à son mari, et etc. Donc en fait, vous remarquez que ce passage de quoi on s'entretient est énormément lié à la soumission. S'il n'y a pas la soumission, on va s'entretenir à toutes sortes de choses. Les pensées, les disputes, les inquiétudes. Prenons Colossiens 3. Que la parole, Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femme, que chacune soit soumise à son mari. C'est quand même marrant que ces deux passages, il y ait eu ce point sur de quoi vous entretenez-vous pour après rapidement aller, n'oubliez pas d'être soumise. Alors ça s'adresse, on va dire, bien sûr la soumission est valable pour l'homme aussi, mais là on parle, on est entre nous là. Mais dans les deux passages où il est question, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes, entretenez-vous face à de quoi vous entretenez-vous, on voit que la soumission, c'est quelque chose qui arrive après. Indispensable. Et je terminerai par vous dire ce passage-là. Ce que ça veut dire, entretenez-vous. Bon, on comprend, hein. D'accord? Je vous ai parlé des gammes, je sais pas, moi, entretenir une maison, entretenir un local, entretenir une communion avec Dieu. C'est-à-dire, essayer de garder à la même place ou à la bonne place ceux qui nous est cher. D'accord? Vous comprenez, quand je vous parle des gammes, moi je suis musicien, je comprends. Si je veux un minimum entretenu, moi je suis batteur, et bien, de temps en temps, il faut que je fasse quand même, de temps en temps, maintenant, parce que c'est pas mon métier premier. Mais si j'étais musicien de scène dans des contextes professionnels importants, il faudrait que tous les jours, je puisse entretenir mes gammes à la batterie. Oui, il y a des gammes à la batterie, c'est pas les mêmes, hein. Mais il y en a, ce sont des exercices de chauffe, de souplesse, etc., de dextérité, d'endurance aussi, et de physique, quoi. Vous voyez, il faut s'entretenir. Un sportif, s'il s'entretient pas, faut pas qu'il compte aller faire les Jeux Olympiques, ni la compétition du quartier. Il peut pas, il doit s'entretenir. Et nous, c'est pareil. C'est ça que Jésus nous dit, de quoi vous entretenez-vous? Et puis, il nous dit, maintenant que vous voyez les possibilités presque infinies de tout ce que vous pouvez vous entretenir, qui mène à rien, je vous en demande, entretenez-vous par des psaumes, c'est-à-dire louez, dites ce que Dieu fait, dites ce que Dieu a fait, confessez ça, et c'est intéressant, entretenez-vous, ça veut dire, parlez-en. Comme Jésus a fait sur la route avec les disciples d'Emmaüs. Comme je fais avec Lily, alors que je vais, ou qu'elle vient vers moi, m'encourager. Dites-le-vous. Faites entendre une voix, un son, émettre des sons prononcés. J'ai fait une blague à Montpellier. J'ai blagué en disant, vous savez, nous, des fois, je vais le refaire. Lily, si tu savais tous les problèmes que j'ai, tu es loin d'imaginer. Il y a l'argent. A-R-G-E-N-T. Alors Lily va me dire, mais est-ce que tu t'entretiens? Alors là, je vous le fais dans notre salon. L'Éternel, un berger, manquerait de rien. Un pâturage paisible. Vallée de l'ombre mort, très mal. Houlette, bâton. Du monde. Vous voyez la différence, comme on peut prendre énormément de temps pour articuler tout ce qui va mal, pour s'entretenir, pour être précis, pour le proclamer, pour faire la peinture de ma maison, de mon âme. Et quand Dieu me dit entretiens-toi, moi je suis léger. Ah, je jette un petit coup de peinture là, je fais le ménage, hop hop hop, c'est. Et là je suis, voici, je suis avec vous et jour à la fin du monde. Je suis créature en Christ, nouvelle, chose en passé, nouvelle. Amen. Bonjour, l'entretien, vous voyez. Et je fais exprès de vous jouer ça. Mais là, et là ça marche pour les hommes et pour les femmes. Hein. Je veux dire, ça marche pour tout le monde. Mais vous voyez, et entretenez-vous selon Éphésiens 5 et Colossiens 3, c'est émettre des sons articulés. La même façon que j'ai fait pour Lily, c'est Lily doit me répondre, non. J'ai pas bien compris ce que tu me dis. J'ai pas bien compris. Ben, recommence. Ouais. En fait, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est mieux, hein? C'est beaucoup mieux. Ouais. Et c'est ça que Jésus nous dit. Entretenez-vous par ça. Utilisez des mots pour décrire et révéler les pensées de Dieu. Utilisez des mots pour décrire et s'entretenir des pensées de Dieu, exactement ce que Jésus a fait quand il est venu marcher avec les disciples d'Emmaüs pour leur expliquer ce que Dieu avait fait, qui Dieu était, ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et petit à petit, d'une disposition, les disciples passent à une autre. Vos âmes qui se disputaient s'apaisent. vos pensées qui tournaient dans tous les sens commencent à diminuer de 75 000 pensées à 10 000. De 10 000 à 500. De 500 à 14. C'est déjà mieux, hein? De 14 à celle de Dieu. Et là où c'est intéressant, c'est que Dieu nous dit, moi si tu veux, j'ai pas de problème en maths, hein, les 74 000 pensées, on peut toutes les voir. On peut toutes les traiter. Mais commençons par une, ce que Dieu pense de toi, ce qui Dieu est, ce que Dieu a fait, ce que Dieu va faire. Confesse-le, dis-le clairement, articule-le. Et la paix de Dieu qui surpasse gardera toutes vos pensées en Christ Jésus. Et petit à petit, 1, 2, 3, 15, 40, 15 000 pensées vont être englobées dans la pensée de Dieu. Parce que le fait d'avoir 15 000 pensées dans sa tête, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Hein. C'est notre cerveau, c'est notre âme, c'est notre intelligence. On a été fait comme ça. Si Dieu avait voulu qu'on ait que trois pensées en même temps, il l'aurait fait. Hein. Vous voyez ? Mais si vous avez cette capacité, comme le Usain Bolt peut courir, je ne sais pas combien, à un peu de temps, c'est ses jambes, hein. Il s'est entretenu, et quand il court, il cartonne. Hein. C'est une capacité que Dieu lui a donnée, qu'il a développée, qu'il a entretenue. Si vous avez un pianiste extraordinaire là, qui va jouer des gammes à 250 km/h, c'est bien ses doigts qui le font. Il s'est entretenu avec une capacité que Dieu lui a donnée, qu'elle a développée, qu'elle a entretenue. C'est exactement la même chose pour nos pensées qui amènent toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et Dieu nous dit, je pense que ça vient de ça qu'on dit que les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois. Non mais, on dit ça, je sais pas, c'est vrai, hein, mais c'est juste, on rigole avec ces trucs-là. Ce sont des, qu'on appelle ça des... Comment on dit quand c'est un truc, une idée arrêtée comme ça, en fait. C'est
un cliché.
Un cliché, voilà. Peu importe. Mais c'est, ouais, c'est vrai, voilà.
C'est prouvé.
Mais en tout cas, je veux dire par là, c'est que ça marche avec Dieu. Dieu dit, t'en as plein qui vont mal, je marche avec toi, je te change ça, on n'en a plus qu'une, c'est toi et moi. Et puis après, on retourne et on les traite. Et tu vas voir que je peux même t'en rajouter d'autres. T'avais 10 problèmes, je vais t'en rajouter 3 de plus, moi. Mais ça ne sera plus des problèmes. Ça ne sera que les pensées de Christ. Donc entretenez-vous avec la pensée de Dieu. Mmh.